So let us just pray together again before we read God's word.
Alors prions à nouveau avant que nous lisions la parole de Dieu. Seigneur, pour une nouvelle fois, nous nous agenouillons, nous nous abaissons devant toi pour te demander que tu puisses être avec nous pendant cette deuxième partie du culte. Marche devant nous. Montre-nous le chemin dans lequel nous devons aller, afin que tu puisses répondre aux besoins de chacun ici ce matin. Nous te demandons, Père Céleste, nous te demandons tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9. L'Évangile de Matthieu, chapitre 9. Matthieu 27, non? Matthieu 9, 27, pardon. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient : Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Nous lirons jusque-là. Ce qui m'a frappé était que ces deux hommes aveugles avaient conscience de leur aveuglement. Tous les jours, ils devaient se rappeler qu'ils étaient aveugles. Ils se rendaient compte de leur aveuglement chaque heure de la journée et chaque minute de la journée. Ils savaient combien c'était comme la difficulté dans laquelle ils étaient qu'un jour ils puissent être guéris. Ils savaient que c'était impossible. Mais regardez à la façon dont ils se sont rendus à Dieu. Aie pitié de nous, fils de David. Le fait qu'il s'adresse à lui comme fils de David n'est pas quelque chose de commun. « Cela ne signifie pas qu'il était de la même lignée que David et que David était leur ancêtre. Son ancêtre. Mais dans ses paroles, il y a le fait qu'ils le reconnaissent comme le Messie d'Israël et le Sauveur du monde entier. Dans Hébreu, Messias ben David, le fils de David, ne signifie pas seulement qu'il était le fils, qu'il était de la même lignée que David, mais cela le fait reconnaître comme le Messie à qui tout pouvoir a été donné, celui dont le Nouveau Testament fait mention. Ils sont venus vers lui en lui donnant toute l'autorité sur leur propre vie, toute autorité. Combien de personnes viennent vers Christ avec leurs besoins? Ils supplient avec leurs besoins, aie pitié de moi, mais il ne leur donne pas une autorité complète sur leur vie entière. Ils gardent certaines choses, certaines parties de leur vie où ils refusent l'autorité de Dieu. Il peut s'agir d'une question d'argent. La façon dont j'arrange ma journée d'une façon pratique dans la journée. Et pourtant, je pense que je peux négocier avec Dieu le pardon de mes péchés. Ce passage est une image réelle du salut. Mes amis, les anges ont dit à Marie, tu l'appelleras Jésus puisqu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et ils se sont rendus vers lui et lui ont reconnu comme ayant toute autorité. Mes amis, ne venez pas vers Christ en pensant que tu peux négocier une porte de sortie par rapport à ton péché. Viens à lui et admets, Seigneur, je suis aveugle. Je suis perdu dans mon péché. Et toi, tu es le Messie et tu es le seul qui peut me sauver de mes péchés. Il y a quelques années, il y avait un homme aux États-Unis, Andy Fistfester. Un écolier brillant à l'école. Dans la Nouvelle-Providence, une école en New Jersey. Il était un des bons élèves de l'école. Il est devenu le président de la senior class, donc la dernière classe à l'école. Et donc, de là, il est parti étudier la finance. Il est devenu le chef officier d'une grande société, voilà, financière. Il est devenu l'un des hommes les plus influençables des États-Unis. Mais Andy pensait qu'il pouvait négocier son péché, négocier avec son péché. Il a décidé qu'il pourrait monter les échelons sociaux en trichant. Et finalement, il a été arrêté. Et il a été condamné pour 78 occasions de fraude où il a fait des blanchiments d'argent et différents détournements. Il était le CFO de Enron. Et finalement, il a tout perdu et cette grande société Enron a été en banqueroute. Alors, mes amis, faites-moi une faveur et rendez une faveur à Dieu. N'essayez pas de négocier un chemin de sortie, une porte de sortie vis-à-vis de ton péché. Nous vivons dans un temps de négociation. Tu négocies tout en politique, en toute chose. Tout est négocié. La négociation signifie je te donne ça et toi tu me donnes ça. Je vais faire un petit compromis ici, mais Seigneur, il faut que tu compromettes, que tu fasses un peu un compromis avec mon péché là. Non. Si tu viens à Dieu, tu dois venir à lui tout en sachant que tu es aveugle complètement et que tu as besoin d'un miracle de Dieu pour te sauver et de te laver de son sang, par son sang. Et si tu vas et que tu demandes la prière, n'essaie pas de cacher ton péché pour que ça ressemble pas, que ça fasse pas trop mal. Appelle une pioche. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un méchant, un mauvais pécheur. Un vrai pécheur. Comme je le vois, les consciences de leur aveuglement à chaque heure, chaque minute de la journée. Mais tu vois, vous voyez, il y a des gens qui se promènent dans l'église, qui s'assoient dans l'église et qui n'ont aucune conscience de leur aveuglement. C'est quelque chose mais tout le monde autour de toi connaît et voit tes manquements, tes faiblesses, mais toi, tu n'en as pas conscience. Tu ne penses pas que c'est quelque chose de si mauvais. Tu ne penses pas que c'est si grave et c'est que pour toi c'est important d'agir ainsi. Et tu n'as pas ce besoin de retrouver la vue. Et les gens voient ta réaction lorsque les choses ne vont pas de la façon dont tu aimerais qu'ils aillent. Et les gens voient l'attitude avec laquelle tu te promènes aux alentours et tu fais les choses. Et les personnes qui t'entourent savent. Ici, il y a un aveugle avec son bâton blanc, mais toi, tu n'en as même pas conscience. Et parce que tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas être sauvé et guéri de ton aveuglement. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu parle à l'église de Laodicée. Et il leur dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir, te rejeter de ma bouche. Et il leur dit à la fin, venez à moi et je donnerai ce qui va guérir tes yeux. Est-ce que ça ne t'est jamais venu à la pensée que en voulant être guéri, tu allais recevoir une bénédiction? Alors tu essaies de cacher les choses, et tu penses que tu n'es pas si fautif. Et la conscience, le fait que tu as conscience de tes fautes, c'est la clé pour retrouver la vue, pour être guéri. La deuxième étape, ils ont cru que Dieu pouvait les guérir. Le Seigneur ne leur a pas demandé, comme d'autres personnes, où il leur a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Non, il a posé une question totalement différente. Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous ? Et ça, c'est la prochaine étape, prochain challenge. Ils devaient croire que Dieu pouvait les guérir de leur péché qui était si imprégné dans leur âme, dans leur attitude, leur comportement. Je me rappelle quand je suis venue ici à la mission pour ma première visite. C'était si difficile pour moi de croire que Dieu allait pouvoir m'aider ici. J'avais marché tout au long de cette vie avec des blessures et je ne pouvais pas croire que je pouvais trouver de l'aide quelque part. Et alors, dans le German Building, c'était là où nous étions, c'était le bâtiment pour les hommes. Et nous étions 8 personnes environ dans cette pièce, cette chambre. Et tout était différent de la façon dont je pensais que Dieu allait m'aider. Cette chambre était remplie de personnes de différentes cultures, de différentes nationalités, différents, avec des arrière-plans différents. Tout était différent. et il faisait, et chacun faisait ses propres affaires. C'était une chambre de fou. Il n'y avait jamais un moment de silence. Et alors j'ai pensé, mais il faut que je reste silencieux devant Dieu pour qu'il puisse me parler et m'aider. Parce que les gens claquaient les portes, criaient. On ne pouvait même pas se concentrer parce qu'on lisait sa Bible. Et je me suis dit, si tu connaissais la solution à ton problème, n'aurais-tu pas trouvé une solution pendant les 4 dernières années où tu as rencontré ces problèmes? N'as-tu pas essayé tout ce que ta logique te disait de faire pour t'aider? Et tu n'as pas été aidé. Tu n'as pas pu sortir de ta dépression. Et j'avais fait je ne sais combien d'églises pour trouver une solution. Et je me suis dit, ne devrais-tu pas attendre de Dieu qu'il vienne sous un nom que toi, tu n'aurais jamais attendu? Et j'étais si sûre que Dieu n'allait pas m'aider dans cet endroit. Mais je suis restée. Et puis, je vous dire quelque chose juste en passant. Vous savez ce qui a joué un rôle important pour moi? Il n'y avait pas des égouts organisés. C'était juste un toit en fer. Il n'y avait pas de plafond. Il y avait les murs n'étaient même pas plâtré, mais ce que je voyais, c'était que tout le monde était content. Ils étaient satisfaits avec le peu de luxe dans l'accommodation. C'était en 1978. Et j'ai ressenti une joie, une excitation que les gens vivaient parce qu'ils aspiraient à ce que moi également je puisse découvrir cela. Et cette excitation, cette joie, si ce n'était pas pour cette joie et cette excitation que je voyais dans leur vie, j'aurais emballer mes affaires et je serai partie. Mes amis, ne sous-estime pas le rôle que tu vis dans le royaume de Dieu. Si j'avais rencontré des personnes qui étaient remplies de critiques par rapport à ce qui se faisait, je serais repartie et j'aurais pris mes bagages. Ne sais-tu pas que tu es peut-être assis avec le sang de personnes sur tes mains? Tu n'es pas un leader? Tu n'es pas un prédicateur? Tu n'as pas de rôle très important? Mais tes critiques et ta négativité peut pousser des âmes à repartir sans avoir reçu l'aide. Et permets-moi de dire cela d'une façon directe. Il y a des personnes autour qui ont du sang sur leurs mains parce qu'ils découragent des personnes qui sont sur le chemin en route pour recevoir de l'aide ici. Les enfants dans la foi. Mais cette critique, cet esprit de critique décourage cet enfant. Et le Seigneur dit, et c'est mieux que mettre une roue en pierre autour de ton cou et qu'on te balance dans la mer, que tu sois une occasion de chute pour l'un de ses petits-enfants. Peut-être que tu es déjà parti ou peut-être tu es encore ici. Tu es ici, mais tu ne réalises pas. Mais tu ne réalises pas comment tu peux être une cause de chute pour des enfants de Dieu qui cherchent. Et j'étais là pour recevoir la guérison de mon âme. Mais j'étais aveugle. Alors il a fallu que je voie mon propre péché et ensuite j'ai pu faire confiance à Dieu. Alors c'est ce qui s'est passé. Et je me suis accrochée à Dieu. Dieu merci, je me suis accrochée à Dieu. Et le temps est venu où il a transpercé ce monde, mon monde sombre, et il a transpercé mon cœur. Quel merveilleux Dieu rempli de grâce. Nous servons un tel Dieu. Le temps passe et je dois continuer. Mais laissez-moi juste vous dire ce qui m'a béni, c'est la persévérance de ces hommes à recevoir l'aide de Dieu. Ils sont venus en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Sûrement, les gens leur ont dit de se taire. Beaucoup vont te dire de te taire et de ne pas venir à Christ avec ton aveuglement. Mais ils ont persévéré. Et nous lisons que le Seigneur Jésus est entré dans une maison et les aveugles sont allés avec lui dans cette maison. Dieu merci parce que il n'était pas irrité par ces gens qui criaient et qui le suivaient de partout, même lorsqu'il était rentré dans la maison. Et alors il leur a dit, est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Ou est-ce que tu t'es tenu et tombé si souvent que tu as perdu l'espoir? Je connais un jeune homme pour qui Quelqu'un lui a insisté sur le fait qu'il du besoin de repentance et le jeune homme a dit. Tout le monde dans notre famille, pardon monsieur, mais tout le monde dans notre famille sont pourris. Mon père était alcoolique, ma mère était aussi dans la pourriture. Il y a une malédiction dans notre famille et je ne peux pas en ressortir. Et alors, ils perdent leur foi en Dieu. Et ces personnes n'ont pas perdu cette confiance. Et alors, le miracle s'est passé, Dieu les a touchés et ils ont vu avec leurs yeux. Alors, laissez-moi vous dire cela, mes amis. Si tu attends que Dieu vienne de l'Est, alors, sois sûr qu'il va venir de l'ouest. Et si tu attends qu'il vienne du nord, tu peux être sûr qu'il va venir du sud. Et alors, ils ont recouvert la vue. Et ça, c'est le point principal que j'aimerais mentionner pour en venir à la fin. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avec eux pour le reste de leur vie. C'est étrange. Nous ne savons pas ce qui se passe avec ces personnes. Nous savons les miracles que Dieu a fait pour eux. Peut-être qu'ils ont encore vécu une vingtaine, trentaine, 40, 50 ans. Je ne pense pas que Dieu a repris leur vue et les a rendus aveugles à nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur vie maintenant qu'ils avaient la capacité de voir ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient-ils préoccupés avec leur vue? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu pour le reste de leur vie? Pense à toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour une personne qui a été aveugle et qui peut voir maintenant. Maintenant, il peut faire des choses qu'il n'avait jamais vues, qu'il n'avait jamais faites. Il y a des opportunités qui s'ouvrent pour lui. Il peut commencer à gagner de l'argent. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la deuxième partie de leur vie après qu'ils aient reçu le pardon de leurs péchés. Et ça, c'est ce qui m'attriste quand je vois des personnes venir ici. Le dès qu'ils ont reçu la vue, ils oublient les instructions de Christ. Parce qu'il leur a dit, la Bible dit, honnêtement, ne dis à personne ce qui t'est arrivé. Mais ils ont commencé à suivre Christ et ils ont commencé à suivre leur propre logique. Il a dit, non, ça serait bien de dire ce qu'il a fait. D'autres personnes peuvent être aidées par lui. Répandons cette nouvelle au plus loin possible. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il aurait pu dire cela. Ils auraient pu dire cela. Le Seigneur n'a pas toujours dit la même chose aux personnes qui venaient vers lui. À certains, il disait, « Montre-toi, va et montre-toi au prêtre, mais ne dis rien. » À d'autres, il a dit, « Rentre chez toi et raconte ce qui t'est arrivé. » Mais dans ce cas, il leur a dit, « Prenez garde que personne ne le sache. » Et leur pensée logique leur a dit, on va répandre ce qui s'est passé. Et ça va complètement à l'encontre de l'instruction que Dieu leur avait donnée. Et ça, c'est ma question pour toi. Après que Dieu t'a recouvert la vue, t'a rendu la vue, tu es venu ici, peut-être que tu sors de la rue, tu étais à peine un être humain et Dieu t'a lavé ici. Il t'a habillé, il t'a donné le respect pour toi-même. Tu es une personne qui peut faire les choses. Alors ne commences-tu pas à suivre tes propres rêves? Ne commences-tu pas à suivre tes propres désirs? Ne commences-tu pas à suivre tes propres ambitions? Dieu nous a appelés pour rester des esclaves de Christ pour le reste de notre vie. Alors tu vas avoir une fille. Et un jeune homme riche et décent lui la demande en mariage. Et elle se sent flattée qu'il lui demande. Parce qu'il est un homme décent, il va à l'église, il veut servir Christ, il veut servir le Seigneur. Et ça, c'est ce que j'ai toujours voulu à un mari. Ainsi, mais tu ne viens pas à Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Ou Dieu te bénit et tu reçois des enfants et tu as toujours voulu des enfants et ces enfants grandissent. Et tes enfants deviennent un Dieu pour toi qui remplace Dieu. Ces enfants sont en train de supprimer la place de Dieu. Et tu n'es plus un esclave de ton Dieu. Je ne sais pas parmi 1000 personnes qui reçoivent la vue ici continuent à servir leur Christ. Ils avaient conscience de leur aveuglement. Ils auraient dû veiller d'une façon encore plus intense que ce que j'ai reçu, c'est un don de Dieu. Je dois le reconnaître et je dois le servir. Mais ça, c'est la grande partie, dont on ne mentionne jamais. Et vous savez ce que je vois dans ma pensée? C'est qu'il y a un grand bruit quand Dieu guérit une personne. Mais vous savez ce qui me frappe? Si une personne commence à se promener, alors Dieu se tait. Et en fait, il devrait être sensible au fait que Dieu est silencieux dans leur vie. Mais ils ne sont pas, parce qu'ils sont si pris par le fait qu'ils peuvent voir et tout ce qu'ils peuvent faire. Et Dieu est assis, et je le vois dans ma pensée, ce grand Dieu assis sur ce trône blanc, entouré par tous les anges. Et par la nuée de témoins dont nous entendons parler. Et Dieu est assis sur son trône. Et les larmes coulent sur ses joues. Il est silencieux. Il te laisse. Mais ses larmes coulent le long de ses joues. Parce que tu l'as déshonoré et tu es devenu roi, tu es devenu à nouveau roi sur ta propre vie. Oh mes amis, quel grand mal! Et c'est ainsi que Dieu est. Si nous l'attristons, si nous tournons notre dos contre lui, il a une façon de juste rester silencieux. Et la personne ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Et ne réalise pas qu'il doit faire quelque chose d'une façon urgente et retourner à Dieu. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Je vais partager avec vous quelque chose que Dr. Sealing nous a partagé les derniers jours. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais le faire. Il a dit, dans la Bible, il y a deux personnes qui ressortent dans la Bible et qui sont connues pour leur douceur, leur bonté. L'un, c'était Moïse. La Bible nous dit, Moïse était celui qui était rempli de bonté sur la terre, et l'autre est Jésus. Je ne me rappelle plus la traduction de Mick. Il est doux. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut marcher dessus mais il reste silencieux et permet à Dieu de te défendre. Quand Moïse a été faisait face à Pharaon, Dieu a mis Pharaon à sa place. Lorsque Myriam et Aaron ont dit à Moïse, mais Dieu nous parle aussi par nous. Myriam a été remplie de cette lèpre blanche et il a rapidement confessé son péché et a fait un sacrifice pour cela et il a brûlé de l'encens et Myriam a été guérie. Mais Moïse ne s'est pas défendu. Et avec l'équipe de Korah qui s'est rebellée contre Moïse, Moïse est resté silencieux. Et la terre les a engloutis. Et ça, c'est les caractéristiques d'un homme doux. Il reste silencieux. Mais il demande et permet à Dieu de juger. Et soyez sûr que Dieu va juger. Nous devrions terminer, mais j'aimerais bien juste mentionner une chose qui m'a béni. Quand nous obéissons à Dieu et que nous continuons à lui obéir, à l'écouter par obéissance, parfois Dieu peut glorifier son nom d'une façon dont nous ne connaissons pas. Nous pensons tous que Dieu est glorifié s'il y a un miracle qui se passe et qu'une personne est guérie d'une façon miraculeuse. Mais dans la souffrance, nous ne voyons aucune gloire à Dieu. Et c'est pourquoi dans certains pays comme la Hollande, ils ont introduit l'euthanasie. Parce que nous ne pouvons pas voir comment nous pouvons glorifier Dieu dans la maladie. Mais mes amis, laissez-moi vous dire, parfois Dieu se glorifie plus lorsqu'un chrétien est malade et la façon dont il continue dans sa maladie à avancer. J'ai vu dans ma vie des gens qui étaient dans une souffrance extrême. J'ai vu comment ils maudissent le docteur, son équipe, ils maudissent Dieu, ils maudissent leur famille dans leur souffrance. Et j'ai vu comment les gens souffrent et que on les pardonne parce qu'ils sont dans cette difficulté, dans cette terrible douleur. Mais j'ai expérimenté depuis que je suis ici des chrétiens dans une terrible souffrance physique, dans des souffrances physiques terribles. Et tu ne peux pas croire la bonne odeur qui ressort de cette souffrance et la façon dont un chrétien passe à travers la souffrance. Il est encore plus un témoignage que si cette même personne avait été guérie. Je dis cela pour dire que nous devons accepter la conduite de Dieu et ne pas suivre notre propre pensée comme ces deux hommes aveugles. Et ça, c'est ma question que je veux vous laisser. Dieu au ciel, alors qu'il est assis sur son trône, est-ce qu'il est en train de pleurer sur ta vie ou est-ce que ta vie apporte la joie et le plaisir dans sa vie? Et tu penses que parce qu'il est silencieux, tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. Puisse le Seigneur nous faire grâce, chers amis. Et ça, ça aurait été le plus grand miracle pour moi. Le miracle de rester fidèle au travers de toutes les années que le Seigneur va te laisser vivre sur cette terre après t'avoir guéri. Et ça, c'est ce à quoi il nous a été appelé. Puisse notre vie apporter la gloire à son nom.
We thank the Lord for this message and the challenge that we have heard at the end.
Nous remercions pour ce message et le challenge qui nous a été donné à la fin du culte. Nous entendons également parler de personnes qui sont venues à Christ. Et le Seigneur pouvait dire, parce que tu proclames que tu vois ta faute reste. La culpabilité reste. Nous avons entendu ce matin, c'est avec une dépendance totale et une confiance dans la douceur et l'humilité que notre salut demeurera. À certains moments, Dieu ne pouvait pas placer sa confiance dans certaines personnes parce qu'il savait le fond de leur être, le fond de leur cœur humain. Jésus pouvait agir à cause du pouvoir que Dieu lui avait donné. Il lui avait donné toute autorité. Il lui avait donné ce pouvoir. Dans quoi investis-tu ta vie? Est-ce que tu investis dans Jésus? C'est terrible si tu devais arriver à investir dans quelque chose de mondain qui va passer, qui va disparaître, et tu n'auras pas investi dans celui qui va garder tes yeux ouverts. tu as entendu et tu as le remède et tu sais où se trouve le remède. Mais tu méprises cette grâce et cette miséricorde du Messie qui vient à toi. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces aveugles qui avaient conscience de leur aveuglement et qui étaient prêts à crier à Dieu, à toi, pour se recouvrir la vue. Oh, que tu puisses trouver parmi eux, parmi nous, ceux qui crient à toi pour te supplier d'ouvrir leurs yeux. Que tu puisses trouver ceux qui puissent garder tes commandements. Afin et des personnes qui ne fuient pas et ne se séparent de ce chemin pour suivre leur propre entendement, leur propre logique. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu recherches parmi nous ceux qui te font plaisir par-dessus tout ce que les autres chrétiens peuvent dire. Et nous te remercions une nouvelle fois pour ta parole qui est la vie et même la santé pour nos os. Merci pour tes bonnes intentions que tu as pour nous. Tu es venu pour nous apporter la vie, non pas que nous, afin que nous ne périssions pas. Et que cette vie puisse nous garder en vie pour nous. Pour que nous puissions être d'une bonne odeur et te plaire, pour une bonne odeur pour le Père Céleste, afin que même si c'est possible, que cela puisse permettre de répandre ce salut dans ce monde sombre. Et alors que nous nous séparons, Seigneur, nous te prions que tu, Seigneur, que ta miséricorde, ta bonté, tu puisses nous vienne avec nous, que tu puisses nous protéger, nous garder par ton grand pouvoir. Que tu puisses nous garder en vie et en bonne santé, les yeux ouverts. Des cœurs qui aspirent, qui languissent de toi. Nous te demandons tout cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.